merci d'avoir organisé cette conférence. Alors, ce qui est bien avec la géopolitique, c'est qu'on peut voyager depuis chez soi. Donc, je vous ai mis un petit diaporama qui va nous conduire à Rome. Vous avez derrière moi la place Saint-Pierre de Rome, hein, qui est extrêmement célèbre, avec notamment cette colonnade du Bernin, qui est peut-être ce à quoi l'on pense le plus quand on a en tête la diplomatie du Vatican. Et quand nous sommes ici, dans la basilique Saint-Pierre, nous ne sommes plus en Italie, nous avons changé d'état, nous sommes dans ce qu'on appelle l'état de la cité du Vatican. Alors ce que je vous propose ce soir, on a une petite heure, c'est d'abord de vous brosser à grande ligne l'historique de cet état qui est assez particulier, et puis après de voir deux, trois exemples de diplomatie contemporaine qui illustrent ça. Puis après on pourra avoir un temps d'échange avec quelques questions si vous en avez. Alors, je commence par un aspect historique, c'est que le Saint-Siège, ou le Vatican, est un des plus anciens États au monde, puisqu'il a été formellement fondé au 8e siècle. C'est vraiment la date de fondation. On peut le faire remonter un peu avant, puisque, après tout, le pape a une juridiction territoriale dès les premiers temps du christianisme, donc il y a 2000 ans, mais c'est au 8e siècle que le roi Pépin le Bref donne au pape Étienne II un territoire, c'est un territoire qu'il a pris sur les Lombards, et il lui donne un territoire où donc c'est Rome et le centre de l'Italie, qui est donc le Latium, et ce territoire est donné lors d'un traité qui est signé non loin de Soissons, parce que vous savez que la Picardie a longtemps été la capitale de la France, et donc il y avait un grand domaine carolingien, et c'est là que le traité a été signé, le traité de Chierzy-sur-Oise, qui est aujourd'hui un petit village. Si un jour vous y passez, vous pourrez vous souvenir avec émotion que c'est là qu'a été fondée la diplomatie et qu'a été fondé le Vatican. Donc ça, c'est pour la partie historique, et de fait, le pape a une juridiction sur ces territoires depuis cette époque-là. Alors, quelle différence entre le Vatican et le Saint-Siège? Les deux termes sont souvent employés l'un pour l'autre. Pourtant, il y a une différence importante. Le Saint-Siège, c'est l'État. Donc, le pape est le chef d'État du Saint-Siège. Le Saint-Siège, c'est l'État. Les diplomates sont des diplomates du Saint-Siège. Donc, quand ils siègent, par exemple, à l'ONU, eh bien, ils sont marqués comme Saint-Siège. Vous avez plein de France, États-Unis, Espagne, il y a Saint-Siège. Donc, ça, c'est l'État, avec son chef d'État, avec ses ambassadeurs, avec son administration, avec sa curie, comme n'importe quel État. Le Vatican, c'est un territoire. C'est un territoire, et donc on parle de l'État de la cité du Vatican. Et le Vatican, c'est un territoire qui aujourd'hui comprend la place Saint-Pierre, la basilique Saint-Pierre, et quelques territoires environnants, ça fait à peu près une trentaine d'hectares. Donc il faut distinguer le territoire de l'État, et l'État du Saint-Siège a une juridiction territoriale sur un territoire, qui est l'État de la cité du Vatican. Alors, ça n'a pas toujours été le cas, puisque ça date de 1929. Alors, pour faire simple, jusqu'en 1870, le pape a une juridiction sur Rome et tout le centre de l'Italie, c'est ce qu'on appelle les États pontificaux, qui ont un peu changé de territoire au cours de l'époque médiévale, mais assez peu. En 1870, on a l'invasion des États pontificaux par les troupes du Piémont-Sardaigne. C'est ce qu'on appelle le Risorgimento, et donc c'est l'unité italienne autour du roi de Piémont-Sardaigne. Et par conséquent, l'ensemble de la ville de Rome est envahie, et le roi d'Italie chasse le pape logé dans un palais qui s'appelle le Quirinal, qui est aujourd'hui l'endroit où siège le président de la République, c'est un peu l'équivalent de l'Élysée pour l'Italie. Donc le pape est chassé du Quirinal, et il se réfugie dans la basilique Saint-Pierre. Et il est emprisonné dans la basilique Saint-Pierre, la basilique plus les bâtiments qu'il y a autour. Ça dure de 1870 jusqu'à 1929. C'est ce qu'on appelle la debellatio, en italien, la chute. Et en 1929, vous avez les accords de Latran, donc qui sont signés dans la basilique Saint-Jean de Latran. Si vous connaissez Rome, c'est la cathédrale du pape. Saint-Pierre de Rome n'est pas la cathédrale du pape, la cathédrale c'est Saint-Jean de Latran. Et là, on a donc un accord qui est signé entre le Saint-Siège et le Royaume d'Italie, qui reconnaît au Saint-Siège la juridiction sur l'état de la cité du Vatican. Donc il y a le Vatican, il y a également Castel Gandolfo, et vous avez quelques immeubles dans Rome qui appartiennent au Saint-Siège. Alors, souvent on dit, oui, c'est Mussolini qui a créé le Vatican. Non, pas du tout, le Vatican existe depuis l'Antiquité. Les États pontificaux ont été formellement reconnus par un acte juridique sous Pépin le Bref, donc ça n'a rien à voir avec Mussolini. Ce qui s'est passé sous le gouvernement de Mussolini, c'est qu'il y a eu les accords du Latran qui ont reconnu cette juridiction, qui ont en fait réglé un problème qui est très ancien, qui datait de l'invasion de Rome par les troupes du Piémont Sardin. Alors ça, c'est très utile puisque ça permet aujourd'hui au pape d'avoir une juridiction territoriale et par exemple la police italienne ne peut pas entrer sur la place Saint-Pierre, l'armée italienne non plus. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, ça a été d'une très grande utilité, puisque l'armée allemande ne pouvait pas franchir la frontière de la place Saint-Pierre. On avait là une frontière qui était à la fois extrêmement tendue, puisqu'il y avait une pression de l'armée allemande et de la SS pour entrer sur la place Saint-Pierre. Et la seule chose qui protégeait le Saint-Siège, c'était une grande bande de peinture blanche qui délimitait la frontière entre le Royaume d'Italie et le Saint-Siège, enfin l'État de la Cité du Vatican. Donc ça a été chose utile. Si on revient un peu dans l'histoire, donc le Saint-Siège a des ambassadeurs aujourd'hui. Vous avez l'ambassade du Saint-Siège en France, donc on s'appelle ça des nonciatures. La nonciature n'est pas très loin d'ici, puisqu'elle est de l'autre côté du pont de l'Alma. Vous avez un petit hôtel particulier avec un drapeau du Saint-Siège, donc c'est la nonciature, c'est là qu'il y a le nonce, et qu'il y a les administratifs de l'ambassade. Donc on appelle ça une nonciature, puisque nuncio en latin, ça veut dire l'envoyé. Donc le nom, c'est celui qui est envoyé. Et aujourd'hui, le Saint-Siège est un des États qui a le plus de relations diplomatiques dans le monde. La France a un peu plus de relations diplomatiques que lui, mais par exemple, le Saint-Siège a davantage de relations diplomatiques que les États-Unis d'Amérique. Il n'y a que 5 ou 6 pays dans le monde avec lesquels le Saint-Siège n'a pas de relations diplomatiques, à savoir l'Arabie Saoudite, la Corée du Nord, la Chine, le Vietnam, et puis 2 ou 3 autres. Avec les États-Unis, par exemple, il a fallu attendre 1980 pour qu'il y ait des relations diplomatiques formelles entre les deux pays. C'est Ronald Reagan qui a expressément demandé au Congrès que des relations diplomatiques soient tissées. Avant, il n'y avait pas d'ambassadeur des États-Unis près de Saint-Siège, il n'y avait pas d'ambassadeur du Saint-Siège à Washington. Donc aujourd'hui, ça fait une représentation diplomatique extrêmement importante, sachant qu'il peut y avoir un nonce qui va faire plusieurs pays. Il n'y a pas un nonce par pays. Alors le Saint-Siège est celui qui a inventé la diplomatie. La diplomatie telle qu'on la conçoit aujourd'hui, telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle s'est développée à partir du XVIIe siècle. Et c'est le pape de l'époque, qui s'appelle Clément XI, qui a ouvert une école pour former des diplomates. Jusqu'au XVIIe siècle, donc nous sommes dans les années 1600 et quelques, les diplomates, ce sont des nobles, d'aristocrates, qui sont envoyés par le roi, avec mission du roi dans un pays, et ils y vont avec armes et bagages. Et donc, ils financent leur ambassade. Mais il y a assez peu de relations diplomatiques entre le royaume de France et les différents royaumes d'Europe, et même les royaumes d'Europe entre eux. Il y en a, bien évidemment, mais ce sont souvent des relations diplomatiques discontinues. Les ambassadeurs y vont quelque temps, et puis après, ils reviennent. Et les États pontificaux ont été parmi les premiers à avoir des relations diplomatiques continues, donc avec un ambassadeur à demeure. Et ils ont été le premier à créer une école pour former les ambassadeurs, école qui existe encore aujourd'hui. Si vous connaissez Rome, il y a le Panthéon, donc qui est maintenant une église. Et juste derrière le Panthéon, il y a une boutique Ferrari. Enfin, pas des voitures, ils ne vendent que des goodies Ferrari. Donc vous pouvez acheter un porte-clés Ferrari ou un t-shirt Ferrari. Et juste à côté de la boutique des Tifosi Ferrari, vous avez un palais qui est l'entrée de ce qu'on appelle l'école des nonces, qui s'appelait autrefois l'école des nobles ecclésiastiques, et qu'aujourd'hui l'école des nonces, donc l'école de la diplomatie pontificale. Et donc c'est là qu'on a une petite promotion, il peut y avoir une trentaine d'étudiants, enfin étudiants qui se forment, alors ce sont des prêtres qui sont envoyés par leur diocèse à Rome pour se former, pour devenir diplomate. Alors ils apprennent le droit, un diplomate a une fonction juridique importante, donc ils apprennent évidemment les différents éléments de droit internationaux, ils apprennent aussi le code pour faire des messages avec Rome, qui a des messages codés, et puis ils apprennent l'art de la diplomatie, Et après, bah, soit ils travaillent à Rome, dans la curie romaine qui est chargée de la diplomatie, soit ils sont envoyés en mission dans les différentes ambassades. C'est l'équivalent d'aujourd'hui de l'école du Quai d'Orsay. Mais c'est vraiment cette école qui a servi de modèle pour l'ensemble des pays d'Europe. On n'avait pas ça autrefois. C'est quelque chose qui a été mis en place au XVIIe siècle. Et ça n'a pas bougé. L'école est toujours au même endroit et elle a toujours la même fonction. On voyait un rôle important. Un des diplomates peut-être les plus connus de l'histoire de la diplomatie du Saint-Siège, c'est Mazarin. Mazarin était un diplomate du Saint-Siège et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais un jour il y avait une guerre dans une petite vallée italienne qui s'appelle la Valtelline. Alors si vous y passez aujourd'hui, c'est extrêmement bucolique et champêtre. Il y a des petites fleurs et tout maintenant c'est le printemps, donc c'est magnifique. Et pourtant, c'est un col où il y a eu 30 ans de guerre acharnée entre la France et l'Espagne. Et des guerres qui ont conduit à plusieurs milliers de morts. Bon, je vous passe les détails de la guerre. Et il se trouve que le roi de France, Louis XIII, et le cardinal de Richelieu sont en train de faire la guerre contre les Espagnols, une fois de plus. Ils sont plutôt en position délicate. Et là, vous avez un cheval qui arrive avec un monsieur sur le cheval qui agite un drapeau blanc en criant « Pace, pace », donc « paix ». Il sépare les belligérants, donc du coup, la guerre s'arrête. Ce qui est plutôt bien pour le roi de France, qui peut comme ça reprendre l'avantage et après négocier une paix favorable. Et il se trouve que le monsieur sur le cheval était Jules Mazarin, qui était envoyé par le pape pour négocier un accord entre les Français et les Espagnols. Et du coup, Richelieu l'a pris sous son aile, et il est devenu ainsi le conseiller de Richelieu. Et à la mort de Richelieu, il est devenu le principal ministre de Louis XIII et après de Louis XIV. Donc vous voyez comme quoi des fois la vie tient à peu de choses, hein. Il faut être au bon endroit au bon moment, puis il faut être aussi un peu intelligent. Et voilà comment Mazarin est entré dans l'histoire et il a après servi le roi de France, notamment durant la Fronde. Si je reviens à l'époque un peu plus contemporaine, celui qui a vraiment fait pour la diplomatie du Saint-Siège, c'est un pape qui s'appelle Léon XIII, qui aujourd'hui est malheureusement oublié, alors que c'est un des papes qui a régné le plus longtemps, 26 ans, il n'a été dépassé que par Pie IX et Jean-Paul II. Et Léon XIII est celui qui a vraiment restauré la diplomatie pontificale, qui a vraiment créé la diplomatie pontificale telle qu'elle est aujourd'hui. Ensuite, ça suit un peu les événements. Hein. Benoît XV a essayé pendant la guerre de proposer les traités de paix. Enfin, il a proposé, mais enfin, ça a échoué. Il a joué le rôle qu'il pouvait, mais enfin, son rôle était assez limité. Et c'est surtout avec Pie XI dans l'entre-deux-guerres et Pie XII pendant la Deuxième Guerre mondiale que la diplomatie du Saint-Siège a retrouvé un éclat extrêmement important. Et notamment, Pie XII a participé de façon directe à au moins quatre complots contre Hitler qu'il a planifié, notamment le complot Valkyrie. C'est lui qui a été contacté par les résistants allemands de la Wehrmacht, qui a donné son accord et qui a aidé à l'organisation du complot Valkyrie, donc qui a échoué à peu de choses près. Hein, Hitler a manqué de peu d'être tué. Mais ça s'est négocié depuis la basilique Saint-Pierre, et en fait depuis un endroit qui est assez particulier dans la basilique Saint-Pierre, qui est la tombe de Saint-Pierre. Puisque vous savez que Pie XII était féru d'archéologie, et donc il a demandé à ce qu'on fasse des fouilles archéologiques pour retrouver le tombeau de Saint-Pierre, qui a effectivement été retrouvé. Vous savez que dans la basilique, on a l'autel de la confession, et sous l'autel de la confession, on a le tombeau de Saint-Pierre. Il se trouve que les informateurs allemands, donc qui étaient opposés à Hitler, rencontraient les espions du Vatican à cet endroit-là, parce que là, au moins, ils étaient sûrs qu'il n'y avait ni micro, ni oreille ou père Dieu indélicat. Finalement, dans un café romain, les murs ont des oreilles, donc il faut être prudent. Alors que quand on est dans la crypte archéologique, là, on est certain d'être tranquille. Et donc, c'est là que se faisaient les échanges. Donc, vous voyez que l'archéologie peut parfois être utile. Et en plus, c'était le prêtre qui était chargé des fouilles archéologiques que Pie XII avait mandaté pour être l'intermédiaire. Personne ne se méfiait de lui, puisque c'est normal qu'il aille faire ses fouilles. Et c'était en fait une des chevilles ouvrières de la résistance. Donc, vous voyez, méfiez-vous des archéologues. Ils sont quand même très souvent dans l'espionnage. Il n'y a pas que lui. Le cas est loin d'être isolé. Voilà. Et ensuite, on peut dire que ça s'est accéléré parce que Jean XXIII a joué un rôle extrêmement important, notamment lors de la crise de Cuba. Il a négocié entre Khrouchtchev et Kennedy pour trouver un accord. Et on est vraiment passé à deux doigts du feu nucléaire. Et c'est Jean XXIII qui a directement négocié entre les deux et qui a permis d'éviter la guerre entre l'URSS et les États-Unis. Alors évidemment, quand un conflit a lieu, on va toujours dire « Ah, ben, ils ont échoué, le conflit a eu lieu. » Quand le conflit n'a pas eu lieu, ils ont réussi, mais ça ne se voit pas. Hein, en économie, on parle de bien négatif. Un bien négatif, c'est un bien, on se rend compte que ça existe quand on l'a perdu. La paix, par exemple, quand on l'a perdu, pour se rendre compte que c'est utile. Bon, ben voilà, c'est un exemple d'intervention de Jean XXIII. Paul VI aussi, Jean-Paul II est extrêmement connu, notamment pour son action dans la chute de l'URSS. Gorbatchev a dit que si l'URSS était tombée, c'était à cause de Jean-Paul II. Il a joué un rôle essentiel, évidemment, notamment en soutenant Solidarnosc. Alors, pour la plupart, ça ne vous parle pas, vous étiez même pas né, mais enfin, c'était quand même un élément important du XXe siècle. Et puis, à l'époque récente, je vais y revenir, quelques dossiers qui sont extrêmement importants. Ce qui est intéressant aussi, quand on regarde un petit peu sur les 150 dernières années, la plupart des papes sont des diplomates. Ce sont des gens qui ont été formés par la diplomatie du Vatican. Alors, Léon XIII était un diplomate, il était ambassadeur en Belgique. Léon XIII, Benoît XV, Pie XI, Pie XII, Jean XXIII, Paul VI. Jean-Paul II a été... alors, Jean-Paul Ier, mais c'était un peu court... Ça compte pas. Mais Jean-Paul II a été un des premiers papes non diplomates. Ceci dit, il a eu une action diplomatique extrêmement importante. Mais vous voyez qu'il y a une tradition de diplomatie et on a eu de nombreux papes diplomates au cours du XXe siècle. Enfin, diplomates avant d'être pape. Hein. Après, ils le sont devenus par la force des choses. Donc voilà, si on dresse un petit peu un petit panorama de ce que c'est le Saint-Siège et quel est son rôle. Alors, justement, quel est son rôle? À quoi sert cette diplomatie? Normalement, une diplomatie, ça sert à défendre les intérêts de son pays. Et donc, la diplomatie joue un rôle important en matière de puissance. On a coutume de dire qu'on envoie les diplomates, et puis s'ils ont échoué, après on envoie l'armée. Alors là, on est un peu embêté avec le Saint-Siège, parce que c'est à la fois un des plus anciens États au monde. Il y a peu d'États qui sont plus anciens que le Saint-Siège. Vous avez la Perse, bon, hier ils trichent parce que, en fait, on va dire que le gouvernement d'État de la Roumanie, c'est quand même très récent. Enfin, si on remonte à la plus haute antiquité, on a des Perses depuis très longtemps. On peut voir effectivement l'Empire de Chine, mais enfin, par ça, il n'y a pas grand monde. Donc, la diplomatie du Saint-Siège ne sert pas les intérêts du Saint-Siège. Ils ne sont pas là pour vendre des Airbus. Vous savez que les diplomates français, aujourd'hui, on les a orientés guerre économique, donc ils doivent vendre des produits français. Bon. Le cardinal Thoran, qui était un des très grands diplomates du Saint-Siège, qui est décédé il y a 2 ans maintenant, un Français, son rôle n'était pas de vendre des Airbus ou de vendre des centrales nucléaires aux Irakiens ou aux Américains. Donc, ils ne sont pas là pour, la diplomatie économique. Normalement, une diplomatie, pour être efficace, il faut qu'elle ait un gros bâton avec elle. Hein, c'est quand même beaucoup plus efficace de négocier. Quand vous pouvez dire, si on négocie pas, derrière, j'ai l'armée avec moi, qui peuvent vous mettre un gros coup de marteau sur les doigts. Ça favorise la négociation. Hein, c'est quelque chose qui simplifie les relations sociales. Évidemment, le Saint-Siège est un peu ennuyé, parce que ce n'est pas les gardes suisses, tout formés qu'ils sont, qui vont pouvoir faire pression sur la Chine ou sur les États-Unis. À l'époque, oui. Hein, Jules II, par exemple, un des grands papes, Jules II, il avait coutume de partir à cheval à la tête de son armée. Donc, voilà, on avait des papes belliqueux et belligérants, plus que belliqueux, et qui combattaient. Bon, on imagine mal, évidemment, le pape François, aujourd'hui, partir à la tête des gardes suisses. Ça serait, évidemment, la situation a complètement changé. Et puis, on a également le fait que la diplomatie va aussi servir des intérêts de l'État et notamment un rôle d'influence. Pour faire valoir des intérêts. Bon, ce n'est pas le cas du Saint-Siège. Donc en fait, on a une diplomatie qui est très curieuse, c'est-à-dire que c'est à la fois une des plus anciennes, c'est une des plus importantes, et pourtant elle ne sert pas directement aux intérêts du Saint-Siège. Alors à quoi elle sert? Elle sert d'abord à servir les catholiques. La première mission d'annonce, c'est de permettre la liberté de culte, enfin de permettre, de favoriser, d'encourager, d'aider la liberté de culte dans l'État où il est en poste, et c'est également de veiller à ce que les catholiques puissent pratiquer librement leur foi, ce qui n'est pas gagné pour tous les pays. Ensuite, la diplomatie, alors le nonce, a aussi un rôle qui est extrêmement important, qui est méconnu des catholiques, mais c'est lui qui est la cheville ouvrière de la nomination des évêques. C'est-à-dire que le rôle du nonce, lorsqu'il y a un poste ecclésiastique, un évêché qui est vacant, comme on a eu récemment Lyon, eh bien le nonce va envoyer trois noms de postulants, enfin de postulants, c'est pas les postulants parce que les gens ne candidatent pas. Il va envoyer trois noms possibles à Rome et le pape va choisir dans ces trois noms. Donc un des rôles du nonce, c'est d'avoir un peu des informateurs un peu partout pour voir qui pourrait être évêque et qui pourrait prendre la place d'un siège vacant. Donc ça, c'est quand même un rôle qui est extrêmement important, qui est peu connu, mais c'est un des principaux rôles du nonce. Et puis après, le nonce, il est là pour servir l'humanité. Bon, c'est un vaste programme, évidemment, mais pour être un facilitateur de paix et de concorde. Donc il ne va pas servir les intérêts du Saint-Siège en tant que tel, mais il sert les intérêts de l'ensemble de la population du pays où il est. C'est pour ça que le Saint-Siège a aujourd'hui un rôle qui est vraiment particulier, parce qu'il a un rôle non pas de neutralité, parce que être neutre, ça veut dire qu'on ne prend pas parti, ce qui n'est pas vrai. Le Vatican prend parti. Donc il n'est pas neutre, mais il n'est pas partisan. Alors on est en diplomatie, hein, donc tout est subtil, bien évidemment. Mais la neutralité, là, vous prenez parti ni pour l'un ni pour l'autre. Le Saint-Siège prend parti. Il prend le parti de la paix, de la liberté religieuse, ce qui n'est pas une petite affaire. Mais en revanche, il n'est pas partisan, c'est-à-dire qu'il ne prend pas position pour un parti plus qu'un autre. Par exemple, le Saint-Siège a des ambassadeurs à l'ONU, il a des ambassadeurs à l'UNESCO, dans quasiment toutes les activités, toutes les sous-divisions de l'ONU. Mais ces ambassadeurs sont des représentants, des observateurs. Ils ne participent pas au vote. Donc c'est là de la distinction entre être neutre et être partisan. Donc ils sont impartiaux, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas part au vote, mais en revanche, ils participent aux discussions pour orienter les choses dans le sens évidemment voulu par le Saint-Siège. Donc vous n'aurez jamais de vote au Conseil de sécurité ou bien à l'Assemblée plénière des États-Unis, il n'y aura jamais de vote de l'ambassadeur du Saint-Siège. En revanche, il est présent. Et il participe aux commissions et il donne la position du Saint-Siège, notamment sur l'armement, sur le trafic des enfants, sur l'esclavage, enfin sur tout ce qui peut concerner les grandes affaires du monde. Voilà, donc ça c'est un de ses rôles principaux. Et après, il a un rôle important de médiateur. Ça c'est un rôle qui est extrêmement important. C'est Léon XIII qui a commencé à mettre en place ce rôle de médiateur. Alors, quelques exemples récents. On l'a avec cette photo. Qui est saisissante. Alors je vais vous la montrer. On va quitter la place Saint-Pierre pour aller à La Havane. Donc voilà, vous avez cette photo qui est là, c'est Benoît XVI et Raoul Castro. Donc nous sommes en 2012, mars 2012. D'ailleurs, vous voyez, c'est pas fait exprès, c'est le 27 mars 2012. Donc c'était il y a quasiment 9 ans, jour pour jour. Donc visite de Benoît XVI à La Havane. Cette photo est extrêmement intéressante. Parce qu'en fait, elle est un très bon résumé de ce qu'est la diplomatie du Vatican. La Havane, c'est un régime communiste. Vous avez Fidel et Raoul Castro qui ont pris le pouvoir par la force, qui ont fait un coup d'État, qui imposent une dictature communiste, dans laquelle, comme dans toute dictature communiste, les catholiques sont réprimés, et vous avez une absence de liberté religieuse. Alors, absence qui a pu varier, avec une répression qui a été plus ou moins forte selon les moments. Et Cuba est un pays marxiste-léniniste, aligné sur l'URSS, et comme vous le savez, Cuba a accueilli des missiles soviétiques avec l'objectif de tirer sur les États-Unis, puisque c'est juste en face, et que les missiles pouvaient notamment toucher Washington et New York, ce qui évidemment a un petit peu dérangé les États-Unis, hein, comme disait Khrouchtchev. Il faut mettre un hérisson dans le slip de l'oncle Sam. Donc le hérisson, c'était les missiles soviétiques, et Cuba faisait office de caleçon qui devait accueillir le hérisson pour frotter les États-Unis. Bon, ce qu'ils ont très bien fait, ça a vraiment été leur rôle de porte-avions nucléaire et balistique de l'URSS dans la mer des Caraïbes. Donc on a un gouvernement et un régime qui est vraiment opposé à la fois, et il y a eu un retournement de l'histoire incroyable. Donc c'est aussi pour vous montrer que l'histoire n'est jamais figée. Quand on fait des prévisions, bon, les prévisions, quand on se trompe, on les met sous le tapis, et puis si jamais une fois on a dit des choses justes, là on la sort en disant « Regardez, j'avais prévu, je suis vraiment un visionnaire ». Bon, puis on va cacher le fait qu'on s'est trompé 100 fois, 99 fois, puis une fois on a eu bon. Bon. Donc personne ne pouvait prévoir en 1980, un, que l'URSS disparaîtrait, et deux, qu'un jour, un pape irait à Cuba en visite officielle. Alors c'est Jean-Paul II qui a fait la première visite officielle, Benoît XVI ensuite en 2012. À cette occasion-là, d'ailleurs, Raoul Castro a promis, et il a tenu promesse, que le Vendredi Saint serait un jour férié. Donc, aller à Cuba, comme ça, vous aurez un jour férié le Vendredi Saint. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est d'abord le retournement de l'histoire. Vous voyez, souvent, l'histoire est tragique. Hein, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. L'histoire est faite de guerre et d'affrontements, mais l'histoire, elle est faite aussi de paix. Et elle est faite aussi de retournements qui étaient imprévus et imprévisibles. Donc, cette rencontre-là, cette photo-là, elle est véritablement historique. Et ce que fait Benoît XVI également, donc on est en temps de carême, parce que vous voyez qu'il a les ornements violets, ce que fait Benoît XVI, c'est qu'il a négocié avec Raoul Castro le rapprochement avec les États-Unis. Alors, ce n'est pas lui qui l'a vu, nous sommes là en mars 2012, vous savez qu'un an après, en février 2013, Benoît XVI a abdiqué. Donc, la réconciliation entre Cuba et les États-Unis se sont faites en 2013, je ne sais plus quel mois, mais cette réconciliation, donc il y a eu un retour des relations diplomatiques, c'est le Saint-Siège qui a organisé les réunions, et c'est notamment piloté par le cardinal de la Havane. Les réunions avaient lieu au siège du cardinal de la Havane avec la présence du nonce apostolique à Cuba. Et donc c'est le Saint-Siège qui a servi de médiateur entre ces deux pays. Et lorsque la réconciliation, lorsque les liens diplomatiques ont été reconstitués, aussi bien Raoul Castro que Barack Obama, dans leur discours, ont mentionné le rôle joué par le Saint-Siège et par le pape dans cette réconciliation. Vous voyez, c'est quand même pas une petite chose. Alors, évidemment, nous, Français, on dit, bon, à Cuba, ça compte pas. Mais non, c'est pas une petite chose, c'est extrêmement important. Pour vous donner un autre élément plus récent, c'est tout ce qui s'est passé au Moyen-Orient, notamment en Syrie. Le Saint-Siège a été le seul État à maintenir un ambassadeur. Alors, la France a fait l'erreur de retirer son ambassadeur dès le début de la guerre en Syrie en 2011, chose qu'il ne faut jamais faire. Les Français ont oublié que le principe de la diplomatie, c'est de discuter avec les gens qu'on n'aime pas. Et c'est de discuter avec des gens avec qui on est adversaire, voire ennemi. Ça ne sert à rien d'avoir des ambassadeurs avec nos amis. La diplomatie, ça sert à négocier ou à discuter avec les gens avec qui on ne s'entend pas. Donc, à la limite, ce n'est pas la peine d'avoir un ambassadeur en Belgique, parce qu'on est amis avec les Belges, et que la guerre contre la Belgique est assez improbable. En revanche, avoir un ambassadeur en Syrie, c'était absolument indispensable. Et donc là, il y a eu une erreur énorme, qui est en fait une incompréhension totale sur ce qu'est la diplomatie. Et le gouvernement français de l'époque s'est dit, on va sanctionner Bachar al-Assad, donc on retire notre ambassadeur. Moyennant quoi, c'est les Français qu'on a sanctionnés. Puisque le rôle principal de l'ambassadeur, c'est notamment de capter de l'information. Si vous retirez l'ambassadeur, vous ne savez plus ce qui se passe dans le pays. Le Saint-Siège ayant eu un ambassadeur pendant toute la guerre en Syrie, celui-ci, il savait ce qui se passait sur place. Et donc là, on a un autre élément qui est vraiment la force du Saint-Siège, qui est le renseignement. Quand on va à Rome, c'est un peu comme quand on est à Paris, si je puis dire, on est au centre du monde. Et donc, on voit tout le monde passer, donc on sait ce qui se passe partout. Parce que vous avez toujours une religieuse, une congrégation du fin fond de la Thaïlande qui présente, ou bien un prêtre qui arrive de Londres, ou bien un chef, un évêque d'Amérique latine, qui peut vous fournir des informations de première main. Dans la guerre d'aujourd'hui, qui est une guerre de l'information et qui est une guerre du renseignement, avoir la bonne information, c'est absolument nécessaire. Et donc, ce qui est fondamental, c'est d'avoir du renseignement. Alors, la France, pour ça, a des services de renseignement, mais finalement une religieuse au fin fond du Congo ou bien des missionnaires en forêt amazonienne. On n'a jamais fait mieux en matière de renseignement pour savoir exactement ce qui se passe. Et c'est pour ça que Saint-Siège a été très bien renseigné sur la guerre en Syrie. D'ailleurs, ça a amené un rapprochement assez imprévu, là aussi, avec la Russie. Et le 15 août 2016, peut-être que vous en rappelez, François Hollande fait une visite au Vatican. Et donc, tous les observateurs un peu futiles se disent « Bon, ben, François Hollande va pour la fête de l'Assomption au Vatican. C'est pas pour la fête de l'Assomption, mais ils ont dit, voilà, il y a les présidentielles quelques mois plus tard, donc il va au Vatican pour faire plaisir aux catholiques et pour essayer de capter le vote catholique. » Bon, pas du tout. D'abord, je pense que les catholiques n'avaient absolument rien à faire que François Hollande aille au Vatican le 15 août. Hein, il est en vacances au bord de la plage, donc c'est vraiment pas leur problème. La raison pour laquelle François Hollande a été au Vatican le 15 août, c'était pour renouer la diplomatie française avec la Syrie. On cherchait en fait une porte de sortie qui soit honorable, une manière de rétablir des liens diplomatiques sans donner l'air de les rétablir, et surtout d'avoir accès aux informations qu'avait le Saint-Siège. Donc ça a été une sorte de mea culpa, hein, ou de, il y a une expression comme ça, on dit qu'il était à Canossa, hein, parce qu'il y avait un empereur une fois qui a dû aller demander pardon au pape et se mettre à genoux, et le pape très gentiment lui a mis deux baffes en lui disant... voilà ta pénitence, et maintenant retourne dans ton palais, enfin, avec son gant, évidemment, hein, on ne donne des gifles qu'avec un gant, pas à main nue. Donc François Hollande a fait un peu la même chose. Alors bon, l'époque a un peu changé, donc le pape François n'a pas sorti son gant pour le souffleter, mais c'était un peu l'idée. Il a reconnu implicitement que la France avait complètement eu tort sur la question syrienne, et donc c'était un moyen de recoller la diplomatie française à la question la question syrienne. Un des grands problèmes de la France, il y a maintenant 2 ans, c'est que pendant longtemps, on n'a pas eu d'ambassadeur à Rome. Enfin, il y avait un ambassadeur près d'Italie, mais pas près de Saint-Siège. Ça, c'est extrêmement ennuyeux, parce que l'ambassadeur près de Saint-Siège a un rôle, justement, d'informateur. Normalement, s'il fait bien son travail, il sait tout ce qui se passe, et donc il peut fournir énormément d'informations au Quai d'Orsay. Donc, bon, pour des raisons, je ne vous passe les détails qui sont d'ordre diplomatique, on a eu 1 an et demi à 2 ans sans ambassadeur, ce qui était extrêmement gênant. Bon, il y avait le service de l'ambassade qui était là, mais enfin... Si un jour vous allez à Rome et que vous avez la chance d'aller à l'ambassade de France près de Saint-Siège, c'est une magnifique ambassade. C'est probablement la deuxième plus belle ambassade qu'il y a à Rome. La première ambassade, elle est aussi française, c'est le Palais Farnèse, qui est absolument superbe, qui est l'ambassade de France près d'Italie. Et l'ambassade de France près de Saint-Siège, c'est ce qu'on appelle la Villa Bonaparte, qui a appartenu la sœur de Napoléon Bonaparte. Ensuite, les Allemands l'ont récupéré. Et donc, après la Deuxième Guerre mondiale, on a récupéré l'ambassade aux Allemands. Hein, c'est une chose que les Allemands n'auront pas. Et donc, on l'a récupéré. Et c'est un très bel endroit avec un magnifique jardin. Et c'est là le siège, l'ambassadeur de France près le Saint-Siège. Vous voyez, ce rôle de médiateur, ce rôle d'informateur est extrêmement important. Et puis, il y a également un rôle majeur qui est... un rôle de pontife, hein, au sens propre. On rappelle que pontife, ça veut dire qu'il bâtit des ponts. Le pontife, dans la religion romaine, c'est celui qui bâtit un pont entre le ciel et la terre. Donc, qui est le prêtre, hein, c'est le rôle du prêtre. Et donc, le pape est le souverain pontife, donc il est là pour relier le ciel et la terre, mais il fait également des ponts pour relier les hommes entre eux. Et donc, il y a une mission universelle du pape, qui est de favoriser la paix mondiale ou la réconciliation mondiale. Je vous donne 2 exemples récents. Il y a eu la rencontre à Cuba entre le pape et le patriarche de Moscou. Ça a quand même été une rencontre absolument incroyable, alors qu'elle avait été négociée à l'époque de Benoît XVI, et qui a pu se faire sous François. Qu'on ait à La Havane, une ville communiste, une ville où les catholiques ont été réprimés, où les couvents ont été incendiés, qu'on ait la rencontre du pape et du patriarche de Moscou, après 1000 ans d'affrontements et parfois extrêmement tendus, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça restera probablement, enfin pour moi, comme l'élément diplomatique le plus important du pontificat de François. C'est vraiment quelque chose qui était inimaginable il y a encore une dizaine d'années. Donc là, c'est vraiment montrer au monde entier que les chrétiens sont unis sur les sujets essentiels, et que s'ils sont unis sur les sujets essentiels, ils pourront faire porter une voix forte sur des sujets fondamentaux. Autre élément d'unification, ce qui est en train de se faire dans le monde arabe. Alors, je vais essayer d'abréger et de faire simple, parce que évidemment, dès qu'on parle du monde arabe, on va vers un désert qui est à la fois mouvant, infini et extrêmement compliqué. Et, derrière chaque grain de sable, vous avez quasiment un problème ou un défi, hein, donc c'est compliqué. Mais n'oubliez pas que, d'abord, tous les musulmans ne sont pas arabes. La plupart des musulmans habitent en Asie, notamment au Pakistan. Au Pakistan, ils vont être, d'ici 20 ou 30 ans, 500 millions d'habitants. Donc, ce sera la première puissance musulmane au monde. L'autre grand pays musulman, c'est l'Indonésie. Ah, donc, ne limitez pas le monde musulman au monde arabe. Et, évidemment, tous les arabes ne sont pas musulmans non plus. Et tous les musulmans ne sont pas sunnites. Ça serait trop simple. Donc, vous avez également des chiites et plein d'autres choses. Le monde musulman est un monde qui est extrêmement varié. C'est davantage une mosaïque romaine ou un tapis persan que quelque chose de complètement uniforme. Donc, ce que font les papes, depuis au moins Jean-Paul II, c'est de se dire, d'abord, le monde musulman est extrêmement varié. Donc, il y a des gens avec qui on peut négocier, et il y a des gens avec qui on ne peut pas négocier parce que ce sont des fanatiques et on ne peut rien en faire. Donc, négocions avec ceux avec qui on peut négocier. Donnons-leur la parole, entendons-nous avec eux, et faisons en sorte que ce soit ces gens-là qui prennent le dessus. D'abord pour la paix de la région, après pour la paix mondiale, et ensuite aussi, c'est très important, pour la liberté religieuse des chrétiens dans ces pays-là. Donc le premier pape à avoir vraiment œuvré pour ça, c'est Jean-Paul II. Alors la plupart d'entre vous n'étaient pas nés à l'époque, mais Jean-Paul II, alors je n'ai plus la date exacte, c'est dans les années 80, je ne sais plus si c'est 84 ou 85, Jean-Paul II a fait une visite éclair à Casablanca, au Maroc. Il a rencontré le roi du Maroc, Hassan II, qui est quand même, dans la mythologie marocaine, c'est un des descendants de Mahomet, et c'est un des commandeurs des croyants. Hein, donc c'est quand même un chef spirituel majeur. Il a fait un très beau discours à la jeunesse marocaine, que vous pouvez lire. Tous les textes des papes sont en accès libre sur le site du Vatican. Vous faites vatican.va, et là vous avez accès à tous les textes publics des papes. Encyclique et autres. Donc, si vous voulez lire un jour le discours que Jean-Paul II a fait à la jeunesse marocaine à Casablanca, c'est un très beau texte que je vous invite à lire. Donc, c'est celui qui a vraiment œuvré le premier pour ça. Après, il y a eu Benoît XVI. Alors, Jean-Paul II n'est pas confronté à l'islamisme. Ça n'existe pas à l'époque. C'est un temps béni. Vous me direz, mais à l'époque, il y avait le communisme et il y avait la menace de la guerre nucléaire. Donc, à choisir, il vaut mieux courir le risque d'être égorgé plutôt que de tomber sous le feu nucléaire. Donc, il ne faut pas oublier non plus que le monde a changé. Hein. Les années 80 sont, d'un point de vue géopolitique, très, très différentes de ce qu'on a connu maintenant. C'était il y a 40 ans, donc c'était vraiment un autre siècle. Benoît XVI a été le premier à être confronté à l'islamisme. Et il a pris le parti suivant, qui est donc de dire les choses avec vérité. Hein. Il ne faut pas confondre diplomatie et syncrétisme. Et en même temps, de toujours dialoguer avec les gens. Alors, il y a ce très beau discours à Ratisbonne, où il parle de la violence dans la religion. La grande idée de Benoît XVI, c'est que la foi doit être purifiée par la raison, et que la raison doit être purifiée par la foi. Bon, il dit ça mieux que moi, mais là aussi, lisez un jour le discours de Ratisbonne, c'est un très beau texte, et Benoît XVI a notamment rencontré le sultan, dirigeant de Turquie et également le grand imam d'Istanbul, et il a fait une visite dans la mosquée d'Istanbul, qui était une visite extrêmement importante. Donc il a joué un rôle extrêmement majeur dans les relations avec le monde musulman. Il a aussi rencontré à plusieurs reprises les hauts dignitaires iraniens chiites. Donc vous avez comme ça une photo qui m'était montrée par un ami une fois. Un des grands dignitaires iraniens, qui est un des numéros 3 ou 4 du régime, qui a notamment contribué à la rédaction de la constitution iranienne. Donc c'est un homme important. Et sur son bureau, il y a une photo de lui avec Benoît XVI. Vous voyez, il a rencontré tous les grands de ce monde. Il a rencontré Barack Obama, Angela Merkel, la reine d'Angleterre. Mais sur son bureau, c'est une photo de lui avec Benoît XVI. Donc, pour montrer quand même l'importance qu'a eu pour lui cette rencontre. Et puis, ça se poursuit avec François, avec trois voyages importants. Le voyage en Égypte, avec la visite de la mosquée Al-Azhar et la rencontre du recteur de la mosquée Al-Azhar. Il y a eu ensuite le voyage aux Émirats Arabes Unis, avec la signature du document sur la fraternité universelle. Et puis, le voyage récent en Irak, où notamment François a rencontré le grand ayatollah, dont son nom m'échappe, mais qui est le grand ayatollah de l'Irak, qui est à la fois un chef spirituel et politique à 90 ans. C'est la première fois que cet ayatollah rencontrait le pape, évidemment, mais surtout qu'il faisait une apparition publique. Ça n'a pas duré très longtemps, il y a quelques minutes, mais pour vous montrer là aussi l'importance que cet homme qui dirige quasiment dans les faits l'Irak a accordé à la rencontre avec le pape, puisqu'il a accepté une rencontre publique qui ne s'était jamais faite. Donc, vous voyez, on est vraiment dans l'idée du pape actuel, mais également de la diplomatie du Saint-Siège, qui est celle de la rencontre, en estimant qu'il vaut mieux parler avec les gens que de se taper dessus, et que plus on rencontre les personnes, plus on pourra déminer le terrain. Et c'est notamment, je pense, la rencontre entre Gorbatchev et Jean-Paul II, par exemple, entre un Polonais et un Russe, il y a quand même un passif. Jean-Paul II a beau être pape, serrer la main d'un Russe, ça fait quand même toujours un peu de mal quand on est Polonais, et en plus, c'est un Russe communiste. Bon, malgré tout, ils l'ont fait. Il y a eu la rencontre entre Benoît XVI et un grand nombre de dignitaires, donc que ce soit en Turquie, que ce soit dignitaires russes également, vietnamiens et autres, et puis les rencontres actuelles de François. Donc ça, c'est extrêmement important, ça vous fait qu'aujourd'hui, la diplomatie du Saint-Siège est une diplomatie incontournable. Alors, je vous ai mis quelques autres photos, comme ça, toujours bien de voir les choses en images, comme vous les avez vues, j'ai comme un petit peu les commenter, ça servira de conclusion. Alors là, vous avez ce qu'on appelle le château Saint-Ange, c'est le Tibre, Il paraît qu'un jour, on pourra reprendre l'avion et y aller de nouveau à Rome, je ne sais pas si c'est un mythe ou pas, mais enfin, on verra. Et donc, ici, vous avez le château Saint-Ange, qui est très ancien, qui a été construit à l'époque d'Adrien, et qui est aujourd'hui l'endroit où il y a ce qu'on appelle la Banque du Vatican, l'IOR. C'est là que sont stockées ces informations. Voilà, donc là, c'est la visite à la Havane. Là, une photo très intéressante, c'est Benoît XVI avec le président allemand. J'arrive pas à faire pause. On va faire comme ça. Donc, rencontre entre Benoît XVI et le président allemand dans la bibliothèque du palais apostolique. Donc, on dirait que le président allemand a un rôle assez limité, mais enfin, c'est quand même important, évidemment, d'avoir cette rencontre. Et là, c'est la rencontre entre François et le président Erdogan. C'était il y a 2 ans. Et donc là, nous sommes dans la cour des palais apostoliques. Et vous avez ici des hommes d'honneur du Vatican qui attendent l'arrivée d'Erdogan. C'est ce qu'on appelle la noblesse noire en Italie. C'est les Italiens fidèles au pape à l'époque du Risorgimento. Et donc, ils reçoivent le chef d'État Erdogan, ils vont ensuite le conduire jusqu'au pape.